Salut les voisins, l'émission qui va suivre est une rediffusion, restez à l'écoute.
7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, que valent vraiment les diplômes? Si vous êtes diplômé du supérieur, que vous avez un emploi, mais que cet emploi est selon vous pas à la hauteur de votre diplôme et de vos compétences, cette émission vous est dédiée. Certes, le diplôme protège en principe du chômage, quoique c'est pas le cas en Afrique, mais presque partout dans le monde, on trouve des diplômés déclassés, pour ainsi dire en solde. Ils sont graphistes, ils travaillent dans des centres d'appel ou bien avec un master d'anglais, ils sont vendeurs. Ce phénomène n'épargne pas un pays comme les États-Unis où les études coûtent en plus très cher. Alors, la course au diplôme a-t-elle encore un sens? Les jeunes sont-ils trop diplômés ou mal diplômés? Comment rebondir grâce ou malgré de longues études? Nous allons en discuter avec nos invités. Vanessa Di Paola, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'université Aix-Marseille. Ex-Marseille Université, pardon, oui, puisque merci. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Et vous êtes spécialiste de l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Et vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Provence, que nous remercions. François Garçon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec moi dans le studio, vous êtes historien, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Vous avez publié « Formation, l'autre miracle suisse » aux presses polytechniques universitaires romandes. Vous êtes franco-suisse et vous vous intéressez beaucoup à l'aspect de la formation des jeunes en Suisse. Maïwenn Madec, vous êtes également avec nous, mais vous êtes à Rennes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice de l'association Tandem, un parrain pour l'emploi, et vous êtes dans le studio de France Bleu Armorique. On entendra aussi l'analyse très intéressante d'un professeur de marketing au Sénégal, Babacar Lo. Il enseigne à l'Institut africain de management et à Subdeco Dakar. Et puis bien sûr, les voisins, vous l'avez compris, on attend vos témoignages. Vous avez un job qui ne correspond pas à votre niveau de diplôme. Surtout, appelez-nous dès maintenant, 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp pour nous laisser des messages. C'est vous qui faites l'émission chaque jour. Je vous rappelle notre numéro, 33 1 84 22 71 71. On ne parle pas des diplômés au chômage, on parle des diplômés déclassés.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète se part.
Je vous lis un message d'un auditeur, Jules, 27 ans, il est à Douala, au Cameroun. Pendant mon master 2 en sciences politiques, j'ai commencé un métier de carreleur que je continue d'exercer depuis l'obtention de mon diplôme en 2016, faute de mieux. Malgré des informations prises en amont sur les débouchés de ce master, je n'ai pas trouvé d'emploi correspondant à mes qualifications. Je subis les moqueries de mon patron, qui n'a pas fait d'études, mais qui a mieux réussi que moi. Il me dit que j'ai fait des études pour rien. Voilà, et tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage en France de Pauline. C'est l'extrait d'un web documentaire qui a été produit justement par l'association Tandem, Bac plus que dalle.
Pauline, j'ai 28 ans et j'habite à Rennes. J'ai suivi un master restauration et réhabilitation du patrimoine bâti à l'université Rennes 2. Mon objectif est donc de trouver un emploi de chargé d'études et d'inventaire du patrimoine. C'était un master professionnel. Je sais que dans le domaine de l'histoire de l'art, il y a un problème de débouchés derrière, mais j'espérais quand même trouver assez facilement un poste, même si j'avais des appréhensions et des doutes. Il y a très peu de personnes qui ont réussi dans le domaine dans lequel on a fait notre formation. Après avoir obtenu mon diplôme en 2011, j'ai décidé de me réinscrire à la fac pour pouvoir avoir une convention de stage, pour acquérir une expérience professionnelle supplémentaire. Après ça, je me suis inscrite au CNED, donc pour préparer des concours de la fonction publique que je n'ai pas obtenu. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Quand on a notre diplôme, après on est un peu lâché dans la nature et on n'a pas de suivi de la part de l'université, à part un petit questionnaire tous les ans pour savoir, pour remplir les statistiques. On est un peu désarmé en fait. Je me suis inscrite à Pôle emploi. Le suivi est assez difficile. Les conseillers Pôle emploi connaissent très mal mon secteur, et en général le secteur culturel. Quand les conseillers voient qu'on a un bac plus 5, ils se disent qu'en fait on n'a pas forcément besoin d'aide. En parallèle, j'ai fait pas mal de jobs alimentaires. J'ai travaillé en usine. J'ai fait des enquêtes dans les bus et les métros, j'ai fait des travaux agricoles, la cueillette de pommes. J'ai fait aussi des remplacements en biocoop. Quand on va voir les boîtes d'intérim, ils comprennent pas en fait pourquoi on vient les voir. On peut pas faire grand chose pour vous par rapport à vos diplômes. Du coup, on retourne les voir en effaçant un peu ce qu'on a fait pour qu'ils nous proposent quelque chose en fait. J'ai aussi également à certains moments eu le RSA. Quand mes droits au chômage s'étaient épuisés. Donc j'ai un peu jonglé avec ces différents revenus en fait. Job, droit Pôle emploi, RSA socle, RSA activité. C'est avec ces aides de l'État en fait que j'ai pu assurer mon quotidien. Ouais, ça fait faire 5 ans maintenant que je suis diplômée. Et maintenant ça se mélange un peu avec de la résignation. Je sais pas si je vais réussir à aboutir à vraiment ce que je souhaite faire.
Maïwenn Madec, on vient d'entendre un extrait du web documentaire qui a été réalisé par votre association Tandem, un parrain pour l'emploi à Rennes, en Bretagne. Quel est le profil des déclassés qui sollicitent votre aide ?
Les personnes qu'on rencontre, globalement, ils ont un peu le même profil que Pauline, puisque en majorité, c'est des personnes qui ont un bac plus 5, c'est 75% des personnes qu'on rencontre. C'est aussi en majorité des filles, 70% sont des filles, et effectivement, c'est aussi dans les domaines que peut être, dans lequel peut être Pauline, c'est les arts, la communication, mais c'est aussi les domaines de la santé, du social. Globalement, c'est un peu le même profil que Pauline.
Comment ça évolue, le déclassement professionnel en Bretagne ?
Alors nous, à l'échelle de notre association, ce qu'on peut voir, c'est que depuis la création de l'association, ça n'a pas particulièrement évolué. La situation est un peu la même, la fréquentation est la même. Nous, on n'est pas forcément au contact des déclassés, mais plutôt au contact des diplômés qui veulent vraiment faire le métier pour lequel ils ont été formés. Donc nous, on veut éviter le déclassement, finalement.
L'association a été créée il y a 4 ans. Hein. Comment est vécu ce déclassement par rapport au diplôme par les jeunes ?
J'ai l'impression que les jeunes ont une pression de plus en plus forte par rapport à ce déclassement. Justement, c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui viennent nous voir en amont de la fin de leurs études pour être sûrs de mettre toutes les chances de leur côté, parce qu'ils savent quelles vont être les difficultés. Et c'est beaucoup de pression, de culpabilisation aussi, parce qu'on dit beaucoup aux personnes au chômage qu'ils sont responsables de leur situation et que finalement, s'ils sont au chômage, c'est de leur faute. Donc c'est beaucoup de culpabilisation, du stress.
Donc le déclassement finalement apparaît comme inexorable et à la juste mesure de leurs erreurs d'orientation, d'une certaine manière, c'est ce qu'on leur dit.
Oui, un peu. Et puis, ils ont l'impression d'avoir été mal informés aussi par les formations, parce qu'on propose des super formations dans les universités, des masters qui sont très intéressants, mais qui n'informent pas forcément sur la difficulté après de trouver un emploi, ou au moins les gens se disent « je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais l'avoir ».
Ouais. Vous restez avec nous, bien sûr, Maïwenn Madec, Vanessa Di Paola à Aix. On va bien sûr redire qu'on parle d'un phénomène relativement marginal si on compare l'emploi des jeunes non qualifiés.
Absolument, il faut quand même toujours prendre de la mesure par rapport à cette idée que ça ne vaudrait plus la peine du coup d'investir dans des études, de passer du temps à se former, d'acquérir des compétences, parce que j'entends effectivement la trajectoire difficile et le comme ça doit être particulièrement difficile de voir qu'on ne trouve pas quelque chose qui correspond à ce qu'on a fait. Mais toute proportion gardée, pour ceux qui n'ont pas de diplôme ou peu de diplôme, ça va être bien pire,
bien
plus difficile.
Le diplôme protège du chômage, en tout cas dans un pays comme la France, globalement.
Absolument.
Dans les pays développés, dans l'Europe.
Absolument.
Le diplôme protège du chômage, mais il ne protège pas du déclassement.
C'est même la raison principale. Si on n'a pas de diplôme, on ne peut pas en fait être en situation de déclassement, puisque la manière de penser cette notion-là...
Bah oui, pour être déclassé, il faut avoir été classé par le diplôme.
Par définition, il faut avoir un diplôme et du coup, ensuite, occuper un emploi qui ne correspondrait pas. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que dans ce qui a été dit, là, dans le témoignage et puis dans la réaction de Maïwenn, c'est qu'il y a à la fois la notion d'un niveau d'études qui est élevé et qui peut conduire à ne pas trouver d'emploi et donc à passer du temps au chômage. Hein, et du coup, des arbitrages qui vont dire à force d'être au chômage, j'en ai ras-le-bol et du coup, je vais prendre un boulot qui ne correspond pas. qui va être alors soit moins qualifié, soit dans un autre secteur d'activité, soit les deux. Hein, dans le témoignage qu'on a entendu, c'était le cas. Et du coup, évidemment, c'est générateur de beaucoup d'insatisfaction. Mais je pense que ce qu'il faut bien se dire, c'est que si cette personne-là n'avait aucun diplôme, sa trajectoire ne serait certainement pas meilleure.
Quelle est l'ampleur du phénomène aujourd'hui? Comment il a évolué ces dernières années? Est-ce qu'il est en augmentation?
Oui, ce phénomène, hein, j'ai travaillé sur cette question avec Stéphanie Moulet à partir de belles enquêtes qui sont produites par le CEREC en France, hein, qui est un organisme qui fait des enquêtes d'insertion depuis 1992.
Le Centre d'études et de recherche sur les qualifications.
Voilà, parfaitement. Donc ce Centre d'études de recherche sur l'emploi et les qualifications produit des enquêtes d'insertion depuis 1992, ce qui nous permet d'avoir du recul aujourd'hui et de pouvoir essayer d'évaluer l'évolution. L'ampleur et l'évolution du phénomène. Nous, on dit que ce phénomène, il est en quelque sorte enraciné. Il est là et évidemment, les conjonctures économiques dégradées, la crise de 2008 ne font qu'amplifier le phénomène parce que, évidemment, on a de plus en plus de diplômés. Parce que depuis le plus jeune âge, on dit à nos enfants qu'il faut faire des études, qu'il faut aller à l'école, et les pouvoirs publics mettent en œuvre.
C'est aussi une politique gouvernementale. Hein,
absolument,
pour
80%
augmenter.
D'une classe d'âge au bac, évidemment, on doit bien se douter que l'objectif ayant été atteint, ensuite les jeunes, ils ne s'arrêtent pas au bac, hein, ils poursuivent, ils rentrent dans l'enseignement supérieur.
Mais c'est aussi pour répondre aux exigences de la croissance économique. Hein. Par définition, les pays qui sont en croissance économique sont des pays qui ont un bon taux de diplômés du supérieur.
Absolument. Mais de l'autre côté, on a une croissance des emplois qualifiés, certes, mais pas proportionnelle. Et donc, du coup, on se retrouve avec plusieurs phénomènes qui surviennent en même temps. Une expansion scolaire, hein, ce qu'on appelle la massification de l'enseignement supérieur. La massification des emplois qualifiés, elle est en moindre proportion. Et des conjonctures économiques avec une pénurie d'emplois criante depuis 2008, en particulier en France, mais pas seulement, hein, dans l'ensemble des pays.
Donc aujourd'hui, grosso modo, en proportion, sur la masse des diplômés, les diplômés déclassés par rapport aux autres, c'est quoi en proportion?
Alors, c'est difficile. Hein. Je vais donner un chiffre, mais vraiment, je veux préciser que un autre chercheur pourrait vous donner d'autres chiffres parce que sur d'autres enquêtes, parce qu'il aurait mesuré autrement déclassement.
Oui,
hein, donc c'est un ordre d'idée. Là, c'est un déclassement qu'on mesure de manière statistique. C'est-à-dire qu'on regarde, moi j'ai un certain diplôme, les personnes qui ont le même diplôme que moi, majoritairement, ils sont dans quel type d'emploi, quel niveau de qualification d'emploi. Et si je suis dans un emploi qui est moins qualifié, alors on va dire que je suis déclassée. Donc je veux dire par là que c'est pas... parce que tout à l'heure, vous disiez que les personnes ressentent ces situations de déclassement. C'est une autre manière de le mesurer, de demander aux gens directement « est-ce que vous sentez déclassé ?» Donc si on le mesure comme ça, statistiquement, à partir de la fréquence, hein, est-ce que je suis dans la même situation que tout le monde ou pas ? Statistiquement, on a des ordres de grandeur. Hein. Globalement, c'est à peu près 17% d'une génération rentrée sur le marché du travail en 2010.
C'est quand même pas mal. Hein. Et on est d'accord que si on demandait juste est-ce que vous avez le sentiment d'être déclassé, ça pourrait être beaucoup plus. Hein. Il suffit de se disputer avec son patron un jour, d'être de mauvaise humeur pour déclarer qu'on se sent déclassé. François Garçon, le problème dans le fond, c'est quoi? C'est la formation? C'est le marché de l'emploi?
Alors, il y a une foule de problèmes qui s'empilent, je crois. Je vais peut-être repartir de l'exemple que vous avez donné, qui est très intéressant, de Pauline, l'étudiante à Rennes, qui est diplômée depuis 2012, d'après un calcul qui me paraît assez sain. Elle fait une formation, un master de restauration patrimoine bâti. Ensuite, elle dit qu'elle espérait trouver facilement un poste. À cette époque, je suis dans l'UFR d'art et d'archéologie à Paris 1, c'est-à-dire qui forme ces mêmes personnes. En 2000, dès 2000, on sait que ces gens vont massivement au chômage. Donc lorsque cette jeune femme, maintenant c'est plus une jeune fille, dit « j'espérais trouver facilement un poste », il y a une responsabilité de l'établissement, il y a une responsabilité des enseignants que de ne pas avoir su que d'une part... le marché du travail dans ce secteur-là était saturé, et il y a une responsabilité...
De ne pas avoir su ou de ne pas avoir dit
Premièrement, responsabilité, et il y a une responsabilité de l'établissement et des enseignements de ne pas lui avoir dit que le marché était saturé. Et si l'on m'objecte que les enseignants et l'établissement n'étaient pas forcément au courant de l'état du marché du travail, c'est une autre responsabilité de l'établissement et des enseignants que de ne s'être pas renseigné, que de ne pas savoir vers quoi se destinent les étudiants qu'ils accueillent, qu'ils sont supposés former et qu'ils lâchent ensuite sur un marché du travail où on ne les attend pas.
Alors, incompétence, voire malhonnêteté des universités pour préserver des postes, préserver quoi ?
Alors, vous allez beaucoup plus vite que moi, c'était pour éviter un nouveau procès
clair.
sur votre chaîne, mais je pense qu'effectivement, il y a une malhonnêteté. Il est clair que lorsque vous dirigez un master recherche, par exemple, et que vous n'avez plus que... vous passez de 12 étudiants à 8, passer à 6 étudiants, vous commencez à vous inquiéter sur votre avenir professionnel, ne serait-ce que vis-à-vis de vos collègues. Vous pensez que dès l'instant où on va commencer à faire des ratios, on va vous demander peut-être d'enseigner éventuellement un peu plus ou de prendre des cours en licence en amphithéâtre, puisque vous n'assumez plus de responsabilités lourdes au niveau des masters professionnels.
Ce n'est pas le cas de toutes les filières. Il y a des filières comme le droit qui sont bondées et ce n'est pas pour autant qu'on a
alors il y a des filières,
je
pense que si vous faites de la physique, les masters, il n'y a pas de chômage cognitif. C'est-à-dire que lorsque vous sortez avec un doctorat ou un master 2 professionnel en physique quantique, vous êtes pris rapidement dans la plupart à la fois des banques, des compagnies d'assurance.
Mais en droit, il y a beaucoup de monde dans les amphithéâtres. Donc les enseignants n'ont pas de peur de ne pas avoir de public. Et pour autant, est-ce que ça ne crée pas aussi parfois du déclassement ? Pour prendre l'exemple du droit, mais ça pourrait être un autre exemple. Ce ne sont pas forcément les filières les plus désaffectées qui conduisent le plus au déclassement ou pas d'ailleurs ?
Alors, là, en l'occurrence, quand même, c'est un master restauration patrimoine bâti.
D'accord, donc
c'est
quand même. On va pas rester toute l'émission
sur ce
master de restauration.
C'est vrai, mais puisque ça a été choisi pour illustrer l'émission, c'est véritablement quelque chose qui appelle à une critique très forte de l'établissement, critique très forte de l'encadrement. Maintenant, pour répondre à votre question sur le droit, je pense que le droit offre probablement. Et d'abord, il est beaucoup plus liquide. Les formations en droit sont beaucoup plus liquides. Et je pense qu'au niveau du chômage cognitif, un très grand nombre de diplômés en droit sont aujourd'hui sous-qualifiés, déqualifiés par rapport à la formation qu'ils ont reçue. Peut-être pas de manière aussi caricaturale qu'en histoire de l'art et en archéologie, mais je pense que le marché des avocats est sursaturé.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Nous sommes en ligne avec Babacar Lo, professeur de marketing à l'Institut africain de management et Subdeco Dakar. Bonjour Babacar Lo.
Oui, bonjour Emmanuel.
Comment se manifeste le déclassement des diplômés dans une ville comme Dakar, qui est une véritable plaque tournante de la formation supérieure? D'abord parce que l'université Charenta Diop est très attractive pour la sous-région, d'autres pays voisins, des étudiants subsahariens. Puis il y a aussi énormément d'écoles, de commerces privés. Du coup, comment s'appréhende le phénomène du déclassement des jeunes?
C'est vrai que pour moi, il y a plusieurs éléments, mais le plus saillant, c'est une forme de déphasage entre les attentes du marché et la formation telle qu'elle est produite. Donc on se retrouve dans des situations où beaucoup de jeunes diplômés qui sortent notamment avec des masters ou avec des bachelors ont beaucoup de mal à s'insérer parce que quelquefois notamment leur formation professionnelle n'est pas toujours en phase avec ce qui est demandé sur le marché. Un autre élément, c'est qu'on a des filières qui semblent être surpeuplées en termes effectivement d'effectifs et de profils qui s'y intéressent, et d'autres filières qui sont abandonnées ou en tout cas sont sous-peuplées parce qu'il n'y a pas assez de formation sur ces créneaux, notamment les formations en informatique, les formations en développement, etc. Et donc on se retrouve dans des situations où après c'est le système D. Donc je me débrouille, une fois que j'ai mon master et que je me rends compte que le marché de l'emploi n'arrive pas à me garder, il faut juste que je trouve quelque chose que je trouve à gagne-pain. Et donc finalement, quels que soient les diplômes que j'ai eus avant, c'est pas important, il faut juste que je trouve quelque chose.
Et ce système D autour de vous, avec vos étudiants, comment il se traduit à l'arrivée? Ça veut dire qu'on a quel job pour quel diplôme? Vous pouvez nous citer quelques exemples?
Alors, l'exemple saillant que moi je vois le plus chez les jeunes que je côtoie, c'est les centres d'appel. Alors, les centres d'appel, quand notamment tu es censé être télémarketeur, il n'y a pas forcément un grand niveau d'études qui est demandé. On va plus regarder effectivement l'aisance commerciale ou l'aisance au téléphone. Et par conséquent, lorsqu'il y a au moins un revenu ponctuel qui tombe, bah, même si on a juste un bac, parce qu'il y en a effectivement qui se retrouvent quelquefois à être à, dans des situations similaires à ceux qui ont juste eu un bac, alors qu'eux, ils ont peut-être un bac de 3 ou un bac de 5. Mmh. Et donc, il y a vraiment un peu cette difficulté, parce que tous les ans, on a des milliers de jeunes qui se retrouvent avec un diplôme de bac plus 3 sans aucune aptitude quelquefois à se différencier ou à se valoriser aussi sur le marché du travail. C'est aussi un autre problème.
Des jeunes qui se retrouvent avec un bac plus 3, avec un bac plus 5 dans un centre d'appel, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent « je suis un diplômé déclassé » ou ils se disent « c'est transitoire, je vais rebondir » et quelle est la réalité d'ailleurs?
Effectivement, beaucoup se disent que c'est transitoire. Sauf que moi, justement, j'en connais qui ont dit que c'était transitoire et qui se sont retrouvés entre guillemets coincés. Parce qu'une fois que notamment tu mets le doigt dans l'engrenage du fait de gagner un peu d'argent dans une société où socialement il y a énormément d'attentes,
oui.
Bah, tu ne peux plus te permettre de retourner dans des situations où par exemple tu as accepté un stage pour apprendre notamment un métier ou apprendre ton métier.
Oui.
Et beaucoup se sont retrouvés coincés, littéralement, avec très peu de possibilités de, d'évolution de carrière, mais parce qu'ils ne peuvent pas lâcher justement... ce petit gagne-pain qui au moins leur garantit un minimum pour notamment retourner dans des situations où ils auraient moins ou voire rien pendant une période alors que leur famille attend et qu'il y a vraiment de grosses attentes sociales.
Mais alors vous en tant que prof de marketing, qu'est-ce que vous dites à vos étudiants pour ne pas être un diplômé déclassé?
Alors pour moi, un des gros problèmes, c'est l'aptitude à se valoriser. C'est que j'ai l'impression en tout cas que beaucoup... cherchent un diplôme plus que des connaissances. Et quelquefois, notamment dans leur attitude en classe ou dans leur façon notamment de percevoir la formation, c'est « Ok, tout ce qui est important, c'est que tu me donnes une note et que je puisse passer en classe supérieure et que je puisse avoir un diplôme. » Donc l'optique, généralement, c'est vraiment de conscientiser sur l'aptitude à se valoriser, à obtenir des connaissances qu'un diplôme. J'avoue que j'essaie de beaucoup travailler sur la démystification du diplôme. Et je n'ai pas l'impression que ça soit la chose la plus déficiente, mais pourtant, pour moi, c'est important.
Mmh.
Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'essaye aussi de vulgariser un certain nombre de contenus de formation en ligne avec des MOOC, pour notamment permettre à ces jeunes peut-être de facilement faire la transition entre les connaissances et notamment les besoins du marché en termes d'aptitudes, plus que sur des diplômes qui quelquefois sont juste un papier, mais qui ne certifient rien à l'entreprise qui est censée l'accueillir. Par rapport à ce qu'ils cherchent sur le marché du travail.
Merci beaucoup Babacar Lo, professeur de marketing à l'Institut africain de management et à Subdeco Dakar, pour ce témoignage et vos analyses sur ces jeunes. Très bonne journée à Dakar.
Merci à vous.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
François Garçon, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse sur la façon dont les jeunes perçoivent le diplôme comme déconnecté des connaissances finalement?
Alors, je ne sais pas si les jeunes perçoivent le diplôme comme déconnecté des connaissances. En tout cas, ils le perçoivent comme déconnecté du marché. Le problème, c'est qu'ils le perçoivent lorsqu'ils sortent diplômés, alors que l'asymétrie d'information ne devrait pas avoir lieu. Il devrait y avoir, lorsqu'on entame une formation universitaire qui va durer 3, 5, voire 8 ans si on poursuit jusqu'au doctorat. Et moi, j'ai vu des étudiants, eux et des étudiants, finir un doctorat, c'est-à-dire un bac plus 10 presque, et n'avoir aucune perspective de travail intéressante.
Mais sur cet aspect où certains étudiants, par exemple en marketing, comme il le disait, ils attendent la note, ils attendent le diplôme, sans vraiment se demander « mais qu'est-ce que je vais savoir faire en sortant de cette école ?»
Oui, alors, l'université... elle n'a pas pour finalité de fabriquer des gens qui sont parfaitement adaptés au marché du travail. C'est aussi, là, il y a un quiproquo. Hein, ce n'est pas une école d'ingénieurs, ce n'est pas une école de commerce où lorsque vous sortez diplômé, vous avez été coaché par des professionnels, dans la plupart des cas, et ces professionnels vous ont amené à être le plus près possible du marché. À l'université, vous avez quand même des profs qui, dans leur immense majorité, sauf par exemple en Suisse, dans leur immense majorité, sont des gens qui sont totalement déconnectés du marché, eux-mêmes, et ils le sont. Vous avez des profs qui ont 65 ans, qui n'ont jamais vu l'entreprise, qui n'ont jamais vu le marché, sinon lorsqu'ils commandent un billet sur Ryanair ou EasyJet sur une plateforme.
Si je peux me permettre quand même de tempérer un petit peu... C'est peut-être pas non plus le rôle des formations universitaires à un niveau Bac plus 5 que de proposer des savoir-faire. Je prends mon exemple, moi j'interviens dans un master en ressources humaines. Donc on forme des jeunes à occuper des fonctions dans ce secteur des ressources humaines. Et eux, ils arrivent avec, on voudrait apprendre à se servir d'un logiciel pour faire les fiches de paye. Non, à l'université, on ne va pas leur apprendre ça, pas à Bac plus 5. Et voilà. Et parfois, du coup, les étudiants et les étudiantes ont un sentiment qu'on ne leur donne pas ce qu'ils vont pouvoir vendre. Et nous, on essaye vraiment. Et là où je rejoins...
Ah oui, mais c'est vrai que la première question de l'employeur, ça va être, est-ce que vous savez utiliser tel logiciel ?
Et donc, c'est là où qu'on fasse un travail avec ces étudiants et ces étudiantes pour leur donner confiance dans leur capacité à faire. C'est pas parce qu'ils n'ont pas appris à se servir du logiciel.
C'est-à-dire, on vous apprend pas à utiliser le logiciel, mais vous allez l'apprendre très vite quand vous serez en stage,
parce que nous, on va
vous donner des savoirs beaucoup plus profonds, beaucoup plus généraux, capacité d'analyse, de réaction, de synthèse, etc.
De prise en main rapide de ces outils-là, et c'est ça leur plus-value.
Tout le monde est voisin.
Le monde est un village planétaire.
Ça m'a appris la fraternité. Découvrir d'autres cultures.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose, quelque part, qui nous rapproche.
Eh ben tiens, il y a quand même une émission qui pense à tout le monde.
Il y a tellement de richesses ailleurs.
7 milliards de voisins, entre nous là, entre les voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Il y a des auditeurs qui veulent absolument intervenir en direct dans l'émission. On va donner la parole à une diplômée, Ndoya, qui nous appelle de Dakar. Bonjour Ndoya.
Bonjour Emmanuel, bonjour à vos invités, à toutes les auditrices et tous les auditeurs de 7 milliards de voisins.
Ndoya, vous êtes en direct. Alors, vous êtes une ex-déclassée. Vous avez d'abord été titulaire d'un master en biologie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, avant tout, je voudrais vraiment dire que l'intervention de M. Lowe est vraiment, vraiment enrichissante pour les étudiants.
Le prof de marketing,
en fait,
qu'on a entendu.
Oui, c'est très, très intéressant ce qu'il vient de dire. En fait, moi, je suis titulaire d'un master en biologie animale, spécialité génétique des populations à l'Université Chantilly.
Oui.
Mais comme je dis à Delphine, c'est trop compliqué au Sénégal. En fait, il faut que les étudiants savent se plier par rapport aux attentes du marché et pas par rapport à ce qu'ils veulent. Par exemple, moi, quand j'ai eu mon master en biologie, je me suis dit, mais attends, on est au Sénégal, on dure tout le temps la recherche, mais quand même, je vois des gens qui ont un bac plus, je ne sais pas moi, 7 ou 8 qui sont tout le temps là au chômage, qui prennent à l'université. Donc moi qui suis là, j'ai la possibilité de me payer une autre formation. Et là, grâce à mon papa, j'ai eu à étudier ce que demande le marché. Il y avait l'informatique, mais comme j'ai eu un bac S2, donc je n'étais pas trop calée pour retourner en arrière, faire une licence en informatique. Je me suis dit, là, c'est mort. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas faire la qualité, l'hygiène et la sécurité, d'autant plus que maintenant, le marché est devenu vraiment mondial.
Donc, vous avez fait un deuxième master de qualité, hygiène et sécurité.
Sécurité, oui, c'est ça. Donc, j'ai payé ma formation, j'ai eu à le faire. Et là,
c'était plus à l'université, c'était dans une école privée ?
Non, pas d'université, c'était dans une école privée, oui.
Ah oui, eh oui.
Et là, c'était plus facile pour moi d'intégrer le marché, parce que même avant la sortie avant que j'ai mon diplôme, j'ai eu à avoir un stage. Après, c'était construit quand même.
Et donc là, maintenant, vous êtes contente, vous avez un emploi dans un bureau d'études à la hauteur de vos compétences et de vos diplômes, Ndoya ?
Exactement, oui. Mais ce qui m'a permis, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai fait des études en anglais au British Council, donc ça m'a beaucoup aidé.
Ah oui, vous avez appris à parler anglais.
Et là, quand j'ai trouvé le site, oui.
Conclusion, si vous n'êtes pas déclassé, c'est pas grâce à l'université, c'est grâce à votre papa.
Exactement, je ne cesserai jamais de le remercier. C'est lui qui m'a permis aussi de m'ouvrir les yeux, aussi de savoir ce que demande le marché pour pouvoir me plier à cela. Donc, je dis à tous les étudiants qui m'entendent de ne pas se décourager.
Ouais. Mais bonjour la justice sociale, quand même, Ndoya. Merci en tout cas pour votre franchise et pour ce témoignage. Merci beaucoup.
Merci,
et vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71. Qui veut réagir au témoignage de Ndoya ? Vanessa Di Paola, François Garçon.
Juste en un mot, parce que c'était aussi ce que je voulais souligner dans ce témoignage-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement l'importance du réseau qui est évidemment à côté
et
de
du
toutes
portefeuille.
Les qualifications. et ça va souvent de pair malheureusement, enfin bref, et ce qu'on voit par exemple en France, hein, c'est que à Bac plus 5, il y a un certain nombre de jeunes qui sont en situation de déclassement. Quand on sort d'une école d'ingénieur ou d'une école de commerce, c'est beaucoup plus rare, parce que au-delà de la sélectivité dans la formation, il y a aussi tout un réseau qui se constitue pendant ces formations-là, qui va considérablement aider une insertion rapide. Après, il faut aussi accepter qu'il y a un temps d'acquisition d'expérience professionnelle, un temps de connaissance du mode de fonctionnement, de ses relations professionnelles, et que le métier d'étudiant, ce n'est pas ensuite directement celui-là qu'on va mettre en œuvre face à un employeur.
François Garçon.
Oui, vous avez parfaitement raison. Je pense que les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, notamment en France, ont des effets de réseau qui sont très productifs pour les diplômés. Rien n'interdit aux universités de se constituer elles-mêmes des effets de réseau. Pourquoi
si
est-ce qu'il n'y a pas...
Si les moyens dont elles disposent.
Non, c'est toujours apporter ça à des questions de moyens. Il y a des moyens, on trouve des moyens pour acheter des outils qui ne servent à rien, ou pour repeindre des façades qui tiennent debout. Donc on devrait d'abord trouver des ressources pour faire en sorte que les étudiants aient un outil qui leur permette de réseauter de la même manière que réseautent des étudiants d'une école de commerce moyenne, et avec les phénomènes d'entraide et de secours et d'informations, surtout sur les postes qui se libèrent. Les universités sont à la traîne, mais elles ont leurs responsabilités. Je veux dire,
oui,
ça pourrait faire partie des priorités de l'université, des nouvelles universités autonomes.
Elles le font beaucoup, hein. Elles le font beaucoup. Après, ce qui reste très difficile à l'université,
est-ce que votre université a un annuaire de ses diplômés ?
Oui,
elles l'ont presque toutes maintenant.
Bien sûr, bien sûr. Ce qui reste très difficile à l'université, c'est l'encadrement. C'est-à-dire qu'on a énormément d'étudiants en face de nous pour des équipes pédagogiques qui, avec toute la meilleure volonté du monde, sont beaucoup trop peu nombreuses par rapport au nombre d'étudiants.
Une question du côté des employeurs, parce qu'on ne va pas parler non plus que de la formation. Du côté des employeurs, est-ce qu'aujourd'hui, tous les employeurs n'ont pas intérêt à ce déclassement, parce que pour le même prix maintenant, pour un emploi qui nécessitait un BTS, on a un Master 2. C'est vachement pratique quand même. On a des gens finalement de plus en plus compétents pour pas un euro de plus.
C'est ça, c'est ce phénomène en fait de file d'attente. Hein. Ceux qui ont un bac plus 5 et qui ne trouvent pas de boulot qui corresponde à un bac plus 5, et ben ils vont aller postuler sur des emplois pour lesquels on pourrait se contenter d'embaucher quelqu'un qui a une licence. Mais effectivement, l'employeur, on peut comprendre que... alors à la fois pour des raisons financières, mais aussi parce qu'il sait que celui qui a un bac plus 5, il a un savoir-être et un savoir-faire a priori plus élevé, et qu'il pourra peut-être s'adapter plus facilement, réagir à des... Et l'espoir qu'on vont avoir les jeunes qui vont accepter d'être dans ces emplois déclassés, c'est effectivement de progresser, de se dire c'est la porte d'entrée dans l'emploi, et ensuite je vais par l'expérience professionnelle rattraper ce déclassement initial.
Alors, quelle solution pour améliorer l'insertion des jeunes diplômés ? On va en parler, mais avant cela, je voudrais qu'on redonne la parole au standard. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71.
7 milliards de voisins.
On est plus semblables que différents.
Faut tenir compte des voisins.
7 milliards, pour moi, c'est totalement vertigineux. 7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète. 7 milliards de frères et de sœurs.
Claude Hervé est à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Claude Hervé.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 37 ans, quelle est votre situation aujourd'hui ?
Oui, en effet, je suis titulaire d'un master en gestion des ressources humaines après des études de droit. Et là, actuellement, je travaille comme pompiste pour un marketeur d'hydrocarbures dont je préfère taire le nom. Donc, comme je vous disais, je suis essentiellement à un poste essentiellement mécanique qui semble inhiber mon savoir-faire.
Quand vous dites pompiste, forcément, vous êtes l'employé ou vous êtes au moins gérant de la station essence ?
Je suis à la pompe, ça veut dire que je pompe du carburant dans les voitures.
D'accord. Et vous avez une formation, un master de ressources de gestion en ressources humaines. Bonjour, le gaspillage pour votre université.
Pour continuer, je vous disais que je suis à un poste essentiellement mécanique qui semble inhiber mon savoir-faire. D'autant plus que le droit social pour lequel je suis suffisamment sensibilisé est assez bafoué sur le regard le silence complice des inspections du travail.
Et vous êtes bien placé pour le savoir, en ayant étudié les ressources humaines et le droit.
Justement, ayant fait du droit social, du droit de travail, et connaissant un peu de quoi il s'agit, connaissant bien le code de travail.
Comment vous êtes considéré par votre employeur ?
Justement, au poste où je suis, en réalité, parce que je suis dans une structure où, au regard de tout ce qui se passe, on tient très peu compte de votre niveau. Et quand vous faites une analyse de l'environnement, vous verrez bien qu'on y est contraint. Je parle là de la précarité de l'emploi. Donc,
dans votre entourage, que dit-on ? Vous vous sentez très isolé dans ce cas ou pas du tout ?
Un peu trop d'ailleurs, parce que vous vous retrouvez, vous n'êtes pas trop nombreux dans cette situation, et puis forcément par solidarité mécanique, vous êtes un peu obligé de garder le silence.
Merci Claude Hervé de nous avoir appelé. Virgile nous appelle de Dakar.
Bonjour.
Bonjour Virgile, soyez le bienvenu, vous êtes en direct, vous avez 37 ans.
Oui, j'ai 37 ans, je suis diplômé de Jakarta Job où j'ai eu un master en droit de l'homme. Précédemment, j'ai un diplôme de maîtrise en droit des affaires. Et depuis 3 ans, j'enchaîne de petits boulots. Et là, en ce moment, je travaille dans une boutique. J'ai une boutique de luminaires. Et j'ai en charge un enfant et là, je suis condamné à travailler dans cet endroit parce que il faut bien que j'assume mon rôle de père.
Avec le recul, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné depuis l'obtention de votre diplôme ?
Je me dis certainement que j'aurais pas dû choisir ce que j'avais envie de faire, et que j'aurais dû faire comme d'autres qui sont allés vers des métiers de finance ou des, parce que c'est ce qu'on me dit tout le temps. Autour de moi. Voilà, donc je me suis dit, c'est certainement là que j'ai trébuché.
Merci beaucoup Virgile de nous avoir appelé. Merci à vous tous de votre franchise, de la netteté de vos témoignages. Alors bien évidemment, quand on revient en Europe, en France, la situation n'est pas tout à fait la même. Néanmoins, on l'a vu, on pourrait aussi parler des États-Unis avec des chiffres qui sont assez surprenants sur les États-Unis. En 2015, on avait 44% des diplômés de moins de 27 ans qui travaillaient dans des jobs qui ne nécessitaient pas de diplôme universitaire. Donc ce sentiment, ce n'est pas un sentiment propre aux pays en développement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'insertion des jeunes diplômés se fasse en adéquation avec la formation. François Garçon, je sais qu'évidemment vous voulez nous parler du modèle suisse. On a l'habitude en France de regarder du côté de l'Allemagne, qui n'est pas tout à fait différent d'ailleurs de la Suisse.
Le modèle suisse est inspiré du modèle allemand. C'est le modèle des vieilles guildes du Moyen-Âge où la formation est très précoce, les orientations sont précoces et surtout
Et donc choisies ou pas par
les
jeunes ?
Alors attendez, je termine. Elles sont précoces, elles sont assez peu discriminatoires puisque le salaire médian étant de 6200 francs suisses, c'est-à-dire à peu près de 5800 euros, ceux qui sortent de l'apprentissage, je rappelle quand même que 66% des jeunes suisses partent vers l'apprentissage à la fin de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire après 15 ans, et ça monte à 85% dans la partie alémanique de la Suisse. Donc c'est un choix qui est positif et c'est un choix qui n'est pas pénalisant puisque les rémunérations, au final, restent très hautes. Très haute. Je prends l'écart entre un charpentier ou quelqu'un qui fait une formation en micromécanique, ça doit être de l'ordre de 2000 euros par mois, mais quand vous gagnez de côté 7 et 9, ça reste tout à fait. La fourchette est resserrée. Donc, c'est très important, je crois, je retiens des différents témoignages que j'ai pu entendre. Il n'y a aucun ressentiment chez nos amis africains qui se sont exprimés à l'antenne. Il n'y a ni aigreur, ni ressentiment. Il y a éventuellement un vague regret. Mais je pense que quelque part, lorsque vous vous lancez dans un master de droit de l'homme, est-ce que vous êtes convaincu de trouver un travail, au final, en adéquation avec la formation reçue ? J'en doute. En tout cas, à Paris, vous n'en trouvez pas.
Donc il ne faut plus faire de formation en droit de l'homme ?
Je n'ai pas dit ça. Je dis que On doit quand même s'interroger sur, lorsqu'on s'engage à Bac plus 5 dans une longue marche, on doit quand même s'interroger sur les finalités. Ça relève de sa responsabilité individuelle en tant que citoyen, de se dire, j'ai 23 ans, j'ai 24 ans, je m'engage dans une formation, est-ce qu'au bout de cette formation, il y a un travail ? Lorsque j'entends quelqu'un qui fait une formation en restauration du patrimoine bâti, je lui poserai la même question. Pourquoi ? Et avec, évidemment, les responsabilités en amont.
Il y en a qui trouveront un emploi, mais évidemment, très peu par rapport à la cohorte qui sera acceptée par l'université. Alors, est-ce qu'il faut des numerus clausus partout ou dans toutes les filières ?
Je pense qu'il faut en tout cas une information qui soit fiable, une information qui soit vérifiable, qui soit mise à la disposition des impétrants pour que, lorsqu'ils se lancent dans des formations longues, ils sachent au bout du compte ce qui les attend. Moi, j'ai fait un doctorat d'histoire il y a très longtemps à l'école pratique de hautes études, j'ai été au chômage en sortant. Hein, en sortant de mon doctorat, qui était un doctorat avec Marc Ferraud, qui était une très belle thèse d'histoire.
Mais alors,
j'étais
solution,
à la NPE, je veux dire. Et je me suis réorienté. Et ça se passait en 1981. Donc, en 2018, que des étudiants qui sortent avec un master soient obligés de se réorienter, ne me choque pas. Et je reviens sur ce que je disais à propos des témoignages entendus venus d'Afrique. Il n'y a aucun ressentiment. Ils déplorent peut-être, effectivement, vis-à-vis de leur entourage, de ne pas avoir un travail au niveau de leur diplôme. Mais je ne trouve pas qu'il y ait d'aigreur. Maintenant, sur les solutions, il faudra me faire revenir.
Oui. Pourquoi ? Vanessa Di Paola, répondre à la question des solutions ?
Les solutions, en fait, moi, il me semble que c'est la vision adéquationniste et utilitariste des études qu'il faut peut-être laisser un petit peu de côté. On fait aussi des études par appétence, par goût, par envie. Et donc, s'il faut que tout le monde fasse des études de management parce que c'est là-dedans qu'on recrute, ou d'informatique, ou de physique quantique.
Oui, en l'occurrence, ça serait plutôt développeur dans l'informatique. Hein.
Par exemple, voilà. Si on n'a pas d'appétence, pas de goût, pas d'envie de ça, je crois que c'est pas la peine d'y aller, même si c'est là que ça recrute. Et donc, accepter aussi que l'école n'a pas pour vocation uniquement de donner un boulot tout de suite.
On ne parle pas de l'école, on parle de l'université et des formations
d'université,
supérieures.
L'université, oui, oui. Je veux dire,
François Garçon.
Je suis désolée.
Si je peux me permettre, j'aimerais réagir également.
Oui, quelques mots, Maïwenn Madec, je vous en prie.
Oui, je suis un peu étonnée qu'on ne parle pas du tout non plus des choix politiques et économiques du gouvernement et de la responsabilité du gouvernement dans cette situation. Ce n'est pas seulement la responsabilité ni des universités ni des individus. Par exemple, dans le milieu associatif, la réduction drastique des emplois aidés, la réduction drastique des subventions, elle a des conséquences sur ce marché de l'emploi et elle n'est pas du tout du côté des diplômés, cette responsabilité.
Pour créer des qualifications pour les premières marches de la carrière professionnelle. François Garçon ?
Oui, je veux bien que l'université n'ait pas une vision utilitariste et j'approuve cette thèse. Simplement, lorsque vous vous inscrivez en master 2 professionnel, il y a quand même du côté des étudiants une appétence pour quelque chose qui relève de la fonctionnalité, c'est-à-dire d'une préadéquation au marché du travail. Ça s'appelle un master 2 professionnel, c'est pas un master 2 recherche. Autant en recherche, il n'y a aucune raison de préparer, de former des étudiants au marché du travail. Lorsque moi, que je dirige un master 2 professionnel, les 400 candidats qui se positionnent attendent tous de l'ensemble de la formation et de tous ceux qui la font vivre qu'il y ait un rapprochement le plus proche possible du marché du travail à travers le contact avec des professionnels qui viennent enseigner. Je veux dire, c'est l'université, c'est pas un lieu éthéré ou sauf peut-être en théologie, mais hormis ça, je vois quand même que les étudiants à 24-25 ans s'attendent quelque part à être rapprochés du marché du travail plutôt que de la NPE.
Vanessa Di Paola, l'objectif de la France est d'atteindre 50% de diplômés du supérieur d'ici 2020, c'est bien ça ?
L'objectif est en licence, de 50% de diplômés en licence, on y est presque.
Oui.
Et effectivement, l'objectif, il est tout à fait louable. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces 50% de diplômés s'il n'y a pas la croissance économique et l'augmentation du nombre d'emplois qualifiés correspondants ? C'est nécessairement des sources de déclassement potentielles.
Donc,
aujourd'hui, en licence, aujourd'hui, c'est presque 50% des jeunes qui sortent avec une licence qui sont en situation de déclassement. Donc, c'est un niveau particulièrement sensible.
Ça dépend des disciplines.
Bien sûr, bien sûr.
Ça dépend des disciplines. Je pense que si vous faites de la physique, de l'informatique, je veux dire, l'école 42 montre qu'il y a un besoin énorme qui n'est pas satisfait. Et je veux dire, les étudiants qui cherchent à rentrer sur le marché du travail, il est ouvert.
Hein. L'école 42 est une école complètement atypique, qui ne dépend absolument pas de l'université, qui repêche des jeunes qui d'ailleurs souvent sont un peu sortis des circuits de formation et qui sont qui ont le sens de l'informatique, de la bidouille et qui deviennent développeurs par exemple et qui se recasent ensuite facilement sur le marché du travail. On arrive au terme de cette émission, je voudrais qu'on laisse la parole à un dernier auditeur qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Amadou.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, Amadou, vous avez 28 ans.
Oui, j'ai 28 ans et j'ai obtenu mon diplôme en master 2 en économie et en sciences économiques et de gestion à Bamako. Ça, c'était en 2012. Et j'ai été recruté par une société de vente des matériaux de construction et en tant que comptable et caissier.
Oui.
Et une fois sur place, je me suis rendu compte que le poste pour lequel j'ai été recruté n'était pas ce sur quoi j'étais recruté à la base, vous comprenez. Et donc, une fois sur place, je me suis rendu compte que j'occupais un poste d'accueil administrateur, si bien que je m'occupe des clients, du compte des clients et de certaines sociétés qui viennent prendre, par exemple, des marchandises en bon.
Mmh.
Et voilà, donc je m'occupe de tout ça. Mais aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans que j'exerce ce travail, en février, ça fait 3 ans. Je me rends compte aujourd'hui que je me sens un peu inférieur par rapport à la qualification que j'ai eue. Je me rends compte que n'importe qui, il ne suffit pas d'avoir un diplôme en économie ou en comptabilité pour exercer le travail que je fais.
Cet emploi-là que vous faites aujourd'hui, réceptionner des marchandises, etc., vous pourriez l'exercer si vous n'aviez que le baccalauréat, par exemple, Amadou ?
Ouais, même il ne le faut pas. Moi, j'en connais des gens qui font le même travail que moi, qui n'ont aucune qualification, qui ne savent même pas écrire leur nom, si j'ose dire.
Oui. Merci Amadou de nous avoir appelé. Un mot de conclusion, François Garçon, sur ce qu'on vient d'entendre pendant toute cette émission.
Je pense que
on a un sentiment de grand même de gigantesque gaspillage de tous les côtés.
Alors il y a un gaspillage des ressources publiques, il y a une frustration justifiée des étudiants et je pense qu'il y a une responsabilité. J'ai entendu que l'antienne sur le manque de moyens, le manque de ressources et la responsabilité du gouvernement, ça remonte avant Macron quand même, la question de la déqualification et de la symétrie entre les diplômés et le marché du travail. Donc je pense qu'il y a une responsabilité des établissements et également des enseignants du supérieur.
Vanessa Di Paola.
Moi, il me semble que le problème, c'est évidemment l'inadéquation, mais du coup, c'est aussi la création d'emplois. Et tant qu'on aura des taux de chômage et une pénurie d'emplois, on aura beau former des jeunes très qualifiés, très compétents, s'il n'y a pas d'emplois qui correspondent, le problème renvoie quand même au rôle des pouvoirs publics, me semble-t-il, pour accompagner, aider, encourager, stimuler.
Maïwenn Madec.
Oui, au-delà de la création d'emplois, je pense qu'on ne parle pas assez non plus du fait que la majorité des emplois qui sont proposés sont des emplois très précaires, qui sont des CDD, souvent des CDD de moins d'un mois. Donc il y a des personnes qui ne veulent pas postuler à ces emplois-là. Donc il faudrait une création d'emplois, mais qui soient des emplois décents, avec un salaire décent et qui soient adaptés aux aspirations des jeunes.
Merci à vous tous, Vanessa Di Paola, économiste, ex-Marseille Université, François Garçon, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Et merci à vous, Maïwenn Madec, coordinatrice de l'association Tandem, un par un pour l'emploi. On se retrouve lundi, 7 milliards de voisins, même heure, même endroit. Merci à vous tous de votre fidélité.